France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est l'un des plus célèbres musiciens de notre époque qui est l'invité de Musique Matin aujourd'hui, en cette veille des 30 ans de la chute du mur de Berlin et de la fin de la RDA. Et c'est vous qui l'avez rencontré, Sophie Anastasio. Bonjour, rebonjour.
Rebonjour Jean-Baptiste.
Je parle de Daniel Barenboim, pianiste, chef d'orchestre, un musicien humaniste et engagé. Vous l'avez rencontré il y a quelques jours, il était en concert à Paris.
Le chef dirigeait à la Philharmonie de Paris l'intégrale des symphonies de Brahms avec la Staatskapelle de Berlin. Il poursuivait également son intégrale des sonates de Beethoven. Il achèvera ce voyage au travers des 32 sonates toujours à la Philharmonie les 19 et 21 janvier prochains.
Daniel Barenboim était à Berlin le 9 novembre 1989. Il enregistrait Così fan tutte de Mozart avec l'orchestre philharmonique.
Monique.
Mozart, l'ouverture de Così fan tutte, l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Daniel Barenboim, un enregistrement studio de novembre 1989. Daniel Barenboim se trouve donc à Berlin au moment où, ce 9 novembre, le secrétaire du comité central chargé des médias en RDA annonce à la télévision, l'air de rien, que des voyages privés vers l'étranger sont désormais autorisés sans présentation de justificatif et que les voyages peuvent donc se faire à tout poste frontière avec la RFA. Autrement dit, le mur est ouvert. Sophie Anastasio, vous avez donc rencontré Daniel Barenboim qui, 3 jours après ce 9 novembre, va donner un grand concert à la Philharmonie qui se trouve, rappelons-le, juste à côté du No Man's Land, juste à côté du mur.
Un concert retransmis à l'époque en direct à la télévision. Daniel Barenboim dirige du piano le premier concerto pour piano de Beethoven. Vient ensuite la 7e symphonie et il y a eu exceptionnellement un bis, l'ouverture de Così fan tutte de Mozart que le chef, vous l'avez dit Jean-Baptiste, était justement en train d'enregistrer avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Un concert entré dans l'histoire. J'ai demandé au maestro de nous raconter ces 3 jours, à commencer par le moment où il a pris connaissance de la chute du mur.
Oui, j'ai pris connaissance, vague connaissance, le 8 au soir, où déjà on parlait. J'étais dîner avec Patrice Chéreau à Berlin, mais la confirmation, je l'ai eue seulement le 9 au matin. J'ai enregistré avec la Philharmonique de Berlin un Così fan tutte de Mozart. Et quand je suis arrivé pour la séance à 10h du matin, ils m'ont demandé si je pouvais libérer des musiciens pour organiser un concert, si j'étais prêt à faire un concert avec eux. J'ai dit oui, je suis tout à fait prêt à faire un concert à 2 conditions, que ça soit gratuit et que ça soit pour les citoyens de l'Allemagne de l'Est. Et ils étaient d'accord. Et je les ai libérés d'une partie de la séance d'enregistrement et ils ont tout arrangé.
Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à ce moment-là, de ce à quoi vous avez pensé?
Vous savez, tous ceux qui vous disent maintenant qu'ils avaient prévu tout ça, mentent. Parce que je pense qu'il n'y avait pas un être humain, nulle part dans ce monde, où 1 an avant, aurait imaginé ça, ou même 6 mois avant. Plus près, oui, évidemment, quand ils avaient la sortie par l'Hongrie, etc. Mais c'était complètement inattendu. Et le souvenir personnel le plus fort que j'ai, c'était après le concert. Le concert était un dimanche 12, à 11h du matin. Gratuit, ça veut dire qu'il fallait montrer une identité est-allemande pour pouvoir entrer. Et la queue était là, avait commencé à 4h du matin. C'était vraiment une occasion inoubliable. Et après le concert, il y avait des amis, des connaissances qui étaient dans ma loge. Et à un certain moment, quelqu'un me dit, mais il faut maintenant, peut-être que vous alliez lentement, parce que la séance d'enregistrement était à 4 heures. Je dis oui, je me changeais, alors tout le monde sort, sauf une dame qui était contre le mur avec un jeune homme. Elle ne bouge pas. Et je dis, madame, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Elle me dit, non. Je dis, alors, s'il vous plaît, sortez parce que je dois me changer. Et elle s'approche, elle me donne un bouquet de fleurs et elle me dit la chose suivante. Je me suis mariée il y a 30 ans. Quand mon fils, qui était né tout de suite après, avait 6 mois, donc mon mari a émigré à l'ouest avec cet enfant. Depuis, ça veut dire 28 ou 29 ans, chaque soir, je pense à lui et j'espère qu'un jour, je pourrai le voir. J'avais perdu tout espoir. Mais hier soir, ça sonnait chez moi, dans mon appartement en Berlin-Est. Et ce jeune homme qui est là avec moi, c'est lui, c'est mon fils. Et alors, on a pensé, comment est-ce qu'on peut célébrer mieux notre rencontre de nouveau, Et on s'est dit, en vous écoutant avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, ça m'a tellement touché. Et je lui ai dit, ça me touche beaucoup, madame, ce que vous me dites. Moi, je viens assez souvent en Berlin, et je dirige ou je joue. Et sachez que je vous inviterai quand vous voulez. Elle me dit, ah non, monsieur Barenboim, jamais j'accepterai ça, mais je serai toujours là.
Quelle écoute, personne ne tousse dans la salle de la Philharmonie ce 12 novembre 1989 pour ce concert, entrée dans l'histoire, donné par Daniel Barenboim avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, un concert qui donne un peu le frisson, qu'on peut écouter sur un disque édité par Sony, qu'on peut revoir d'ailleurs là aujourd'hui sur le site de nos camarades d'Arte. On reviendra tout à l'heure sur la réunification de l'Allemagne avec Daniel Barenboim, mais on va parler avec lui du présent et de l'avenir. Sophie Anastasio, c'est vous qui l'avez rencontré il y a quelques jours à Paris. Daniel Barenboim vit à Berlin, où il est chef principal à vie de la Staatskapelle, mais pas seulement.
Pas seulement, et toute sa vie, le chef a donné une portée politique à ses projets. En 1999, il fonde avec l'écrivain d'origine palestinienne Edward Said le West Eastern Divan Orchestra. Il réunit des musiciens du Moyen-Orient et d'Israël. En 2016, c'est l'Académie Barenboim Said qui voit le jour. Elle offre une formation diplômante à de jeunes musiciens venus du Maghreb et du Moyen-Orient. Située à Berlin, elle officie dans une salle créée elle aussi, à l'initiative du chef d'orchestre, la salle Pierre Boulez.
C'est une académie dans un double sens. C'est une académie comme une école, un conservatoire, mais c'est aussi une académie orchestrale. Ça veut dire que, par exemple, la dernière tournée qu'on a fait il y a 10 jours, qu'on était à Paris aussi avec le Divan, il y a à peu près entre 10 et 15% qui sont des élèves de l'académie. C'est ce qu'on appelle une académie orchestrale en Allemagne. la Staatskapelle a ça, la Philharmonie de Berlin a ça. Et c'est un système merveilleux de donner la chance à des jeunes qui ont beaucoup de talent et zéro expérience de faire un certain nombre, pas trop, mais un certain nombre de services. Et donc, il y a un effet très bénéfique pour les deux. Et à l'orchestre, nous avons des Israéliens, nous avons des Palestiniens citoyens d'Israël, des Palestiniens de Cisjordanie et des Palestiniens de la diaspora, des Jordanie, des États-Unis, d'un peu de partout, des Turcs, des Libanais, des Syriens, des Égyptiens et des Iraniens.
Et ça crée des échanges sur les situations des différents pays.
Un orchestre, c'est un miroir d'une société. Il y a des gens qui s'intéressent pour certaines choses et d'autres qui ne s'intéressent pas. Donc c'est une communauté comme toutes les communautés du monde.
Sans tirer trop le fil de la métaphore, mais sur l'absence de frontières, même entre le public et les musiciens, avec la salle Boulez qui permet aux musiciens d'être vraiment au centre du public.
Vous savez, j'avais quand la salle était en construction, j'avais un peu de souci que mes collègues, les musiciens, ne seront pas à l'aise parce que le public est tellement proche. Mais il n'y a pratiquement personne qui se plaignait et le public adore ça. Et je pensais qu'il y aurait des artistes qui vont se plaindre parce qu'ils sont très près des gens qui ont des nerfs fragiles, peuvent peut-être se sentir un peu gênés. Pas du tout. C'est la chose la plus extraordinaire de la salle Boulez, c'est que dû à sa forme qui est ovale, on est une communauté. Toutes les salles du concert du monde, de la meilleure à la pire, ont deux communautés. La communauté qui joue sur scène et la communauté qui écoute dans la salle. Mais chez nous, il n'y a pas scène et salle. Et donc, le public et les artistes sont une communauté. Et c'est une sensation merveilleuse.
Nous sommes toujours à la Philharmonie de Berlin, ici, mais en 2006, avec les musiciens du West Eastern Divan Orchestra, dirigé par Daniel Barenboim, dans Beethoven, bien sûr, cette 9e symphonie. Daniel Barenboim, invité de Musique Matin, invité de la matinale ce matin, à la veille des 30 ans de la chute du mur de Berlin. C'est vous, Sophie Anastasio, qui l'avez rencontré il y a quelques jours à Paris. Daniel Barenboim, musicien engagé, humaniste, avec cette académie et cet orchestre dont il parlait. Il porte depuis longtemps un regard sur le monde et donc aussi sur ses 30 ans de réunification.
Et pour lui, le mur semble toujours symboliquement présent, 30 ans plus tard, ancré dans l'identité de la ville de Berlin, ce qui a une influence sur la vie politique du pays et la montée de l'extrême droite lors des dernières élections régionales.
Vous savez, l'Allemagne est réunifiée, c'est clair. Plus sur le papier qu'en réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les gens de l'ex-Est-Allemagne ont vécu la dictature hitlérienne de 1933 à 1945 et la dictature communiste de 1949 à 1989. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais, on parle maintenant là de 5-6 générations, jamais vécu la démocratie. Et je crois que les problèmes qu'il y a en Allemagne maintenant sont dus en partie à ce fait. Ça veut dire que le gouvernement fédéral allemand a été très généreux économiquement avec l'ex-Est, mais ils n'ont pas pensé à l'éducation qui était absolument essentielle. C'est pour ça que pas mal de citoyens de l'ex-Allemagne de l'Est pensent qu'ils sont citoyens de troisième catégorie. Ça veut dire la préférence, c'est numéro un, les Ouest allemands, deux, les immigrants, trois, les ex-allemands de l'Est. Mais c'est une pauvreté qui est dans l'esprit de notre temps, où on confond l'information avec l'éducation. Et l'Internet, qui est une découverte extraordinaire qui a facilité tellement de choses et qui nous aide tellement de choses. Elle a eu un effet très négatif et c'est qu'il a fait, que l'être humain confond entre information et éducation.
Est-ce que, comme il y a 30 ans, vous sentez qu'on vit peut-être un moment particulier avec tous les événements politiques qui se passent actuellement dans différents pays? Est-ce que vous ressentez quelque chose?
En Allemagne, un des problèmes principaux, à part celui que j'ai déjà mentionné sur l'ex-Est allemand, c'est l'antisémitisme. C'est une chose affreuse. Enfin, l'antisémitisme existe depuis que le peuple juif existe, et ça existait partout, mais quand même, les Allemands ont une responsabilité pour un crime pratiquement unique dans l'histoire de l'humanité. Et donc, revoir l'antisémitisme s'assommer ouvertement préoccupe beaucoup de gens, moi aussi.
Avec l'extrême droite, qui a eu des résultats très forts ces derniers jours, en ex-RDA, qui réutilise justement la réunification, comme vous l'avez dit, une espèce de ressentiment contre cette réunification.
Oui, mais comme je vous ai dit, je trouve que la réunification a raté le moment de sensibilité humaniste qui aurait été nécessaire. Et la ville de Berlin, c'est un phénomène curieux. Moi, je vis à Berlin depuis 1991, donc j'ai vu tout le développement. Et, par exemple, si vous demandez à un Parisien qu'est-ce qui est typique de Paris, selon son niveau culture, il vous dit le Louvre, la Tour Eiffel ou Paris Saint-Germain. C'est typique de Paris. Munich, la même chose. Pinacothèque, l'Opéra ou la fête d'octobre. Vous demandez à Berlinois qu'est-ce qui est typique de Berlin, la réponse est toujours un ex-Berlin-Est, c'est comme ci, comme ça, et un ex-Berlin-Ouest, c'est comme ci, comme ça. Ça veut dire que la réunification a raté, disons, une marche.
Pour conclure cet entretien, si on veut penser à de l'optimisme, donc ça passera par l'éducation et la culture, selon vous?
À mon avis, oui.
Et vous pensez que, par exemple, la célébration de l'anniversaire de Beethoven peut être un événement qui, en Allemagne, peut réunir le peuple à travers de concerts, de cette figure musicale qui sera célébrée, par exemple?
J'aime votre naïveté. Oui, ça ne va pas résoudre ça. Mais c'est une occasion, vous savez, quelquefois, il y a des choses que s'obtiennent dans la vie par de petits pas. Espérons que ça, c'est un de petits pas.
Une conclusion optimiste, donc, pour cet entretien avec Daniel Barenboim que vous avez mené, Sophie Anastasio, merci.
Mais je vous en prie, c'est, je le rappelle, un entretien retrouvé sur notre site internet francemusique.fr.
Daniel Barenboim, le pianiste, achèvera son intégrale des sonates pour piano de Beethoven à la Philharmonie de Paris les 20 et 21 janvier. Sophie, on se quitte avec Beethoven et Daniel Barenboim, pianiste. Je me souviens de la pochette de ce 33 tours bleu clair. Je suis sûr que ça parle à certaines auditrices et auditeurs. Adagio cantabile de la sonate pathétique de Beethoven, Daniel Barenboim au piano en concert les 19 et 20 janvier pour la fin de son intégrale des sonates du compositeur à la Philharmonie de Paris.
À réécouter sur francemusique.fr.